Prochain arrêt.
Got a lot of living to do before I die, and I can't got no time to waste. Let's make it.
Próxima estación.
Assalamu alaikum.
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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Proxima Estación. Salut Simon, merci de nous être fidèles à la réalisation. Et bonsoir Sogol Mirzaei. J'ai bien prononcé ?
C'est parfait.
Sogol, tu nous fais le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir pour nous présenter l'ensemble Chakam ? Chakam ?
Chakam.
Chakam. Et voilà. Est-ce qu'il y a une signification à Chakam ?
Alors Chakam, oui, c'est un terme ancien, littéraire, persan, qu'on peut traduire par poème ou élégie ou chanson. Donc c'était vraiment une forme poétique très courte, mais très intense par le contexte présenté. Et donc voilà, aujourd'hui on ne dit plus Chakam, c'est vraiment un mot assez, enfin, oublié complètement.
Désuet.
Exactement.
Un peu dépassé.
C'est ça.
Mais c'est bien, tu fais revivre ça en poésie et en musique. L'occasion de rappeler que l'ensemble Chakam sera en concert le 25 mars au studio L'Ermitage et le 20 février au conservatoire d'Ivry. On se plonge tout de suite dans cette poésie de Chakam avec « Tant qu'il y aura des vagues ».
Thank you.
Tant qu'il y aura des vagues, premier titre extrait de l'ensemble Chakram, sous-titré Les vents brûlants. Du coup, tu, Sogol, tu joues du tar. Est-ce que tu peux nous présenter le tar, cet instrument?
Le tar, c'est un instrument iranien. En fait, le tar que moi je joue, c'est vrai que le tar existe dans d'autres pays voisins d'Iran, en Azerbaïdjan, en Turquie, en Arménie, mais c'est pas du tout la même sonorité et la même forme de l'instrument. Tar signifie corde en persan. Et c'est un instrument qu'en fait, on trouve dans les miniatures du 14e, 15e siècle, un instrument avec une forme de double, avec un double caisson.
Un peu un 8.
Exactement, c'est ça.
Un double caisson, oui.
Et on l'attribue souvent au tar ou rebab, qui est un instrument à cordes aussi. Et, mais le tar, avec la forme qu'on voit aujourd'hui, mais je sais que... Peut-être que nos auditeurs ne le voient pas, mais je vais définir un petit peu. C'est la caisse de résonance, c'est comme deux cœurs qui sont inversés, qui se rejoignent par la pointe, avec un long manche qui se joue à l'aide d'un plectre. Et cet instrument, avec cette forme-là, est apparu à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. On a des photos aussi qui illustrent le schéma de cet instrument au courant du XVIIIe siècle, qui avait une caisse de résonance beaucoup plus petite, légère. D'ailleurs, on a même des photos qui montrent les musiciens qui collent l'instrument contre leur poitrine et ils jouent. Alors, il y a une polémique dessus. Il y en a qui disent qu'en fait, non, ils ne jouaient pas debout. En fait, c'était juste pour prendre des photos parce que les photos, enfin, la caméra était posée sur un trépied. Et il y en a qui disent que puisqu'ils jouaient à la cour devant les rois, donc par le respect, en fait, ils se mettaient debout, alors que s'il n'y avait pas de roi ou des personnages comme ça, ils étaient assis. Donc voilà, on ne sait pas s'il y a une polémique dessus. Mais aujourd'hui, la caisse de résonance est beaucoup plus robuste, plus grande, plus lourde. Donc, on le pose sur la jambe. Et du coup, voilà, on joue à l'aide d'un plectre. C'est un instrument, malgré, en fait, quand on voit l'instrument, on a l'impression qu'il est très costaud. Alors, c'est un instrument très fragile parce que la caisse de résonance est couverte par une peau très fine. C'est vraiment à l'épaisseur d'un chevelure. C'est vraiment cette finesse-là. Alors qu'il maintient le chauve-à-lait avec toute la pression des cordes. Il y a une élasticité de la peau qui est très surprenante, mais en même temps, c'est en fait voilà, cette peau très sensible à l'humidité, à la chaleur, au vent. Donc, ce qui fait que dès qu'il y a un peu de changement de température, il va se désaccorder l'instrument parce que la peau bouge. Donc, bien évidemment, le chevalet bouge. Donc, les cordes vont se désaccorder. Donc, c'est un instrument très vivant.
Très vivant, ouais. C'est ça qu'on dit. Vivant, ouais. Capricieux.
Exactement, capricieux aussi. Ouais.
Avec le temps, dès qu'il y a des changements, des variations, le surveiller comme un bébé.
Comme un bébé. En plus, les frettes sont en boyaux. Donc, avec l'humidité aussi, avec le temps, il faut les changer. Parce que, donc voilà, avec l'humidité, ils vont se desserrer. La peau aussi, hein, la peau, surtout ici en France, c'est humide. Hein. Je vais vous dire, parce que c'est mon jeu un petit peu de regarder ça sur mon portable. Le taux d'humidité à Paris, parfois on arrive à 80%. C'est énorme pour un tar. Alors qu'à Téhéran, au même moment, je regarde, on est à 23%, 30%. Donc,
tu fais des comparatifs.
C'est ça. Et je sens la différence quand je ramène mon tar en Iran et quand je commence à jouer, je vois la différence du son, du timbre. Ça change énormément. C'est vrai que c'est un instrument qui n'apprécie pas forcément l'humidité. Alors, Je me suis formée vraiment auprès de mon luthier qui m'a vraiment aidée comment faire avec toutes ces contraintes pendant les concerts. Parce que c'est vrai que quand on a des concerts dans les festivals, on joue à l'extérieur, extérieur, l'intérieur, l'église, chapelle. Oui, donc du coup, c'est, on m'a, voilà, il m'a donné toutes les astuces pour pouvoir... Calmer les caprices de...
Calmer la bête.
Oui, c'est ça.
Ah oui, et donc tu surveilles un peu tout, tu as le thermomètre,
tout,
le taux d'humidité.
Exactement.
Ah oui, tu...
Ah, je regarde la météo avant de partir.
Ah oui, oui, oui.
Je sais, parce que, je sais que par exemple, là, on était, on avait un concert en Belgique, festival Sphinx. Et du coup, je regardais le... Enfin, on jouait à l'extérieur, une énorme scène de 1500 personnes. Et là, j'ai regardé la météo. J'ai vu qu'il va faire humide, il va avoir des nuages et tout. Donc, j'ai prévu de ramener des chevalets plus hautes et tout. Donc, mais bon, des fois, on a la chance qu'ils nous accompagnent. J'y suis arrivée, c'était pas si catastrophique que ça. C'était pas si humide que ça. On a pu bien faire le concert sans... avoir besoin de changer le chevalet ou quoi que ce soit. Mais si, moi, je vérifie tout le temps.
On retourne à l'écoute du tar et de l'ensemble Chakram avec le titre « Olive ».
Thank you.
l'ensemble Chakam, le titre Olive. On rappelle que l'ensemble Chakam sera le 25 mars au studio de l'Ermitage et le 20 février au conservatoire d'Ivry. Sogol, on sentait là le tar, donc ce qu'on se disait, très, très aigu des sonorités par rapport au oud qu'on connaît un peu plus. Quel est ton parcours donc musical et entre l'Iran et la France? Tu peux nous expliquer tout ça?
Oui, alors j'ai commencé la musique par le setar, qui est un autre instrument à cordes pincées, qui est beaucoup plus petit par rapport au tar. Il y a un son beaucoup plus intimiste. Donc voilà, cet instrument est à la maison parce que mon père, il avait un ami qui fabriquait des setars. Et bien évidemment, il en a acquis pour lui-même.
Est-ce que c'est l'équivalent de la sitar?
Pas du tout. Alors, non, ouais, non, c'est la question qu'on me pose. Non, oui. C'est setar. C'est en persan, ça veut dire trois. Tar, c'est cordes. Donc, ça veut dire trois cordes. Aujourd'hui, l'instrument a quatre cordes, bien évidemment, parce que ça a été ajouté par un musicien pour faire résonner encore plus l'instrument. Non, mais c'est pas du tout. Mais il y a une cette ressemblance quand on dit le nom. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà, mon père, il n'a jamais joué cet instrument. C'est moi qui ai commencé à jouer. Et j'ai dit que voilà, j'ai envie de continuer de jouer cet instrument. Donc, j'ai pris des cours. Et un jour, je vois à la télé un reportage qui annonce qu'il y a un conservatoire. Un collège musical, en gros. Parce que le système de conservatoire, ce n'est pas le même. Et moi, j'ignorais complètement l'existence, en fait, d'un conservatoire ou d'un collège musical, qu'on peut en fait aller au collège étudier et en fait en même temps faire la musique. Ça a réveillé quelque chose en moi. Et ensuite j'avais une amie qui jouait de la clarinette, qui était au même conservatoire, que je l'ai connue par la suite. Et là j'ai dit bon, j'ai envie de continuer la musique dans un collège artistique, musical, sauf que j'ai découvert que le setar n'était pas enseigné à l'époque au conservatoire. Je connaissais le tar avant. Le tar, pour moi, c'était... j'avais des amis, enfin un ami de famille qui en jouait, donc j'étais très sensible à son son. Et quand j'ai découvert qu'il n'y a pas de setar, je me suis dit, il faut que je rentre... à ce collège, il faut que je fasse la musique. Donc, tout de suite, j'ai dit « Ok, je vais me mettre au tar. » Et là, j'ai découvert que c'était un peu tard parce qu'il fallait rentrer à partir du 6e au collège artistique, en gros. Et moi, j'étais déjà en 4e. Donc, on m'a annoncé que c'est trop tard. Je ne peux plus accéder en fait, à la formation du collège. Et je n'ai pas accepté. J'étais très têtue, donc j'ai dit non, moi je dois le faire, il faut. Et j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire que bon, je vais rattraper, je vais tout faire. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible de rattraper 3 ans ou 6 mois, parce qu'effectivement, ils m'ont proposé de faire un concours d'entrée. Mais ils m'ont dit, tu te fais des idées, tu peux pas pouvoir rattraper 3 ans. Et avoir le même niveau que les autres élèves, que ça soit en termes d'instruments, que ça soit solfège, que ça soit enfin, tout ça, tu peux pas. Non. J'ai dit ok, laissez-moi tenter. Et j'étais en larmes, laisse tomber. Et je pense qu'elle a dit ok, bon, là, laisse essayer. Ok, reviens dans 6 mois. Elle m'a inscrit sur la liste. Et pendant 6 mois, je me souviens, je n'ai pas sorti, enfin à part pour aller à l'école et revenir à la maison. Et quand je rentrais à la maison, je mangeais, je ne sortais pas de ma chambre. Jusqu'à 2h du mat, je jouais, je travaillais. Et voilà, j'ai passé le concours d'entrée et j'ai été admise et j'étais la seule à être admise parmi les autres
élèves qui avaient suivi les 3 ans d'enseignement.
C'était les élèves qui voulaient accéder. Mais en fait, il y en avait qui voulaient accéder après 1 an ou 2 ans parce qu'ils ne savaient pas, ils voulaient rentrer à partir de 5e ou 4e ou Il y en avait trois autres personnes qui voulaient, comme moi, rentrer à partir du troisième. Mais voilà, j'étais la seule qui a réussi de passer le concours.
C'était une histoire de légende.
C'est ça.
D'un film.
Exactement, j'étais très heureuse. Et en même temps, le premier jour que je suis arrivée au collège, c'était assez... c'était un monde tellement inconnu et étrange. Je sais que c'est difficile de se mettre dans le contexte, mais en Iran, quand on est dans les écoles, en fait, bien évidemment, on n'est pas du tout dans une ambiance joviale, joyeuse, avec toutes les matières qu'on nous impose, que ce soit les matières sur le Coran, l'islam, et aussi, tout est là, en fait, en gros, imposé, sans... On n'a pas d'activité, à part le sport, il n'y a pas d'activités artistiques qui sont proposées aux écoles et qu'aujourd'hui, ce n'est plus. Il y a un peu plus d'ouverture, mais à mon époque, c'était vraiment quelque chose. Ça manquait d'émancipation, ça manquait de vie, de vitalité. Mmh. Et moi, d'un coup, j'arrive d'un truc un peu sombre, j'arrive dans un endroit qui a la musique partout. Et c'était.
Ouais, une ouverture.
Une ouverture énorme. Et voilà, une fois que le conservatoire est terminé, en fait, j'ai eu mon bac, en gros, avec une amie artiste qui était au conservatoire, qui était pianiste. On a eu cette envie d'aller découvrir la musique ailleurs. Et pas en Iran, de ne pas se restreindre. En Iran, parce qu'on se disait avec toutes les vidéos, parce qu'on regardait, bien évidemment, pendant les cours, on avait un cours d'initiation, ce qu'on appelait à la musique classique. On voyait beaucoup de vidéos, de concerts ici en Europe, des opéras, en fait, enfin tout.
Philharmonie.
Oui, voilà, exactement. Mmh. Et à un moment donné, on s'est dit que on est trop restreint ici et qu'on a envie d'élargir notre monde, d'aller découvrir la musique ailleurs et d'étudier la musique ailleurs. On a commencé notre recherche dans les rues. On allait parce qu'en fait, on s'est dit il faut qu'on aille à l'université de Téhéran pour voir à quoi ça ressemble, pour se faire des idées. C'est ce qu'on a fait. Et finalement, elle a décidé de partir en Autriche. Et moi, j'ai décidé de venir en France parce que j'avais toujours cette envie, cette soif de découvrir la France. J'avais toujours cette image de la Sorbonne. Pour moi, c'était un rêve de pouvoir venir voir, étudier la Sorbonne. Et j'avais un cousin à l'époque qui vivait à Paris, qui est aujourd'hui décédé, malheureusement. Mais lui aussi, il m'a beaucoup motivée. C'est ça. J'ai tout fait. J'ai commencé à étudier le français. Et bien évidemment, dans mes choix, j'avais une prof de français qui m'a dit ne commence pas par Paris. Et du coup, moi, j'ai choisi Reims comme l'université. Mmh. Et j'ai atterri à Reims en arrivant en France, à l'université de Champagne, Ardennes. Et je suis restée 2 ans là-bas. Et ensuite, j'ai fait la demande de transfert. Je suis arrivée à Paris, à la Sorbonne, mon rêve. Donc j'ai continué. Je peux te dire qu'en fait, pour les études, j'ai continué jusqu'aux 3e année de doctorat à la Sorbonne. Et après, j'ai arrêté, bien évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai mon master, mais je n'ai pas pu terminer le doctorat puisque, entre-temps, j'ai commencé ma carrière de musique.
C'est la musique là qui a repris le prix.
Exactement.
À la fin des études. C'était un doctorat en quoi, alors ?
Alors, c'était sur mon instrument. C'est-à-dire que...
Donc, musicologie, quoi.
Exactement, okay. C'est ça. Ouais. Pour le master, j'étais vraiment... j'ai commencé à travailler sur les écoles et les styles d'interprétation du tor en Iran. C'était un sujet que j'avais envie d'étudier. Et pour le doctorat, effectivement, quand je parlais avec mon directeur de recherche, on a dit qu'en fait, ça peut être la continuité du même sujet. Et pour aller approfondir encore plus loin. Mais c'est vrai que c'est un travail à plein temps, le doctorat. Donc, on ne peut pas
se consacrer à la musique exactement. En même temps que
et en même temps, voilà.
Un doctorat.
Exactement. Et c'est vrai que moi, à partir de master, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, en fait, j'ai découvert le monde universitaire. J'ai fait, en fait, parce que j'avais envie de faire des recherches et tout. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée et j'ai dit, bon... Je fais plus de musique.
Trop de théorie et voilà. Plus de pratique.
C'est ça.
Et ouais, là, tu t'es dit, je deviens chercheur en tard.
C'est ça, c'est ça.
Il faut que je retrouve.
Et c'est pour ça, en fait, il y avait un cri à l'intérieur. Je me suis dit, il faut
écouter faire... ce cri.
Exactement. Et c'est vraiment le premier concert que j'ai donné à Paris. Je l'ai organisé moi-même. J'ai dit que voilà, c'est à moi de faire tout. Ouais, exactement. C'était au Centre Mondapa. Je fais un concert solo de 7h et tard. Et voilà, l'aventure a commencé là. Ouais.
Parfait, c'est intéressant et riche tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter alors, et l'ensemble Chakam a commencé alors combien de temps après ce moment-là? C'était combien?
C'était une évolution parce que c'était en 2012 que moi j'ai commencé à faire des concerts en solo. Et ensuite, j'ai fait appel à une amie percussionniste que je connaissais depuis l'Iran, qu'on avait joué dans des ensembles en Iran. C'était encore en 2012 ou 2013. J'ai organisé un autre concert à Paris. C'était au Tate de Nel cette fois-ci. Je l'ai invitée. Elle est venue d'Amsterdam. On a joué en duo. On a commencé à parler ensemble et moi j'ai dit que j'ai envie en fait de faire quelque chose, un projet pour célébrer la musique instrumentale iranienne. Parce que je trouvais que, bien évidemment, le chant c'est le cœur de la musique iranienne, mais pas que. C'est-à-dire que je trouvais que la musique instrumentale devenait très timide par rapport à la musique chantée. Et elle était complètement partante. Et on s'est parlé, on s'est dit, bon, pourquoi pas faire un trio. Et on a invité une troisième musicienne iranienne qui jouait du kanoun. Donc, l'ensemble Chakam existe depuis 2014, mais la forme était différente. La formation était différente. On était trois musiciennes iraniennes. Nous nous sommes connus en Iran, donc on voulait vraiment célébrer la musique traditionnelle et instrumentale. Et c'était vraiment la réinterprétation du répertoire traditionnel. On a fait des beaux concerts, bien évidemment. Le projet a peut-être duré de 2014, je dirais, jusqu'au 2019, à peu près. On a eu une tournée en Australie parce qu'effectivement la musicienne de kanoun elle jouait en Australie. On a fait pas mal de concerts en France, en Suisse. Mais malheureusement, en fait, il y avait cet éloignement géographique qui posait énormément de problèmes pour la question de prod. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas répéter ensemble. Dès qu'on disait aux organisateurs qu'il y en a une qui est en Australie, l'autre à Amsterdam et une à Paris.
Ça faisait grincer.
Ouais. Et aussi pour nous, c'était compliqué à un moment donné de se retrouver sur le plan musical tout le temps, avec en plus décalage horaire, de se décider. Et entre-temps, moi j'ai fait d'autres rencontres et en vivant à Paris, parce que c'est vrai que à Paris, c'est l'endroit qu'on rencontre. Ouais, c'est ça. C'est dingue. C'est tellement cette effervescence qui fait des rencontres et qu'on s'y attend pas et que voilà, ça fait naître des choses qu'on s'y attend pas. C'est vrai que moi, en rencontrant Marie-Suzanne et Christine à l'époque.
Donc Marie-Suzanne. Classique viol de gamme.
Ouais.
Et maintenant remplacé par Farah Fersi qui joue le kanoun.
Oui.
Donc c'est ce mélange de musique classique occidentale, en fait, on va dire, de viol de gamme et classique arabe
c'est
avec
ça.
Le kanoun. Ouais.
Mais ce que j'aime bien, que j'apprécie, c'est notre recherche. c'est pas vraiment de mélanger la musique classique ou baroque avec la musique arabe, ou c'est vraiment de pouvoir conjuguer les trois ensemble. C'est-à-dire, parce que, par exemple, avec le maqam dans la musique arabe et le radif, qui est le répertoire de la musique classique iranienne, dans, on trouve des ressemblances. Quand on écoute, par exemple, un mode, ça peut être bayati dans les maqams de musique arabe. Et nous, pour la musique iranienne, c'est par exemple shour. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une ressemblance en termes de tonalité, enfin, de ce qu'on entend, mais quand même, il y a des différences aussi. Par exemple, sur quelle note on s'arrête, autour de quelle note, si je vulgarise, c'est quoi la dominante, par exemple, de ce mode. Et là, on voit qu'il y a des différences et ça change tout à l'oreille. Et il y a des moments qu'on composait, on se regardait, on ne se comprenait pas et on essayait de chercher, de trouver une voie de secours. On se disait, mais non, c'est pas du tout ça, mais elle me disait, bah si, c'est ça, en fait, tu m'as dit, bah Yatido, c'est ça, mais j'ai dit, oui, mais moi, en fait, enfin, c'est... Et c'est ça qui était très fascinant, parce que tout en appréciant nos points en commun, musical, bien évidemment, on voyait où sont les différences, mais on essayait de les lisser, de les rassembler ensemble. Et c'est pour ça que pour moi, c'était un travail de recherche, parce que ce sont nos propres compositions. On ne ramenait pas, par exemple, l'idée, ce n'était pas de ramener... Moi, je ramène un morceau de la musique iranienne et vous deux, vous jouez avec moi. Ce n'était pas du tout ça. C'est vraiment... parce qu'on arrangeait ensemble, et c'est le travail d'arrangement qui venait vraiment compléter la composition. Moi, je ne vois pas l'arrangement quelque chose à part. Et cet arrangement, par exemple, Marie-Suzanne, elle avait une façon, une des manières en fait, d'entendre quelque chose. Et elle proposait, on proposait toutes les trois, à un moment donné, aussi, ce qui était bien. On cherchait, par exemple, là, on disait, oh là, ça sonne trop baroque, là. Non. Retire-moi ces accords, c'est pas possible. Et là, par exemple, il y a des moments qu'on disait, oula, c'est vraiment la musique, arabo-andalou, là. Enfin, ça fait trop ça. En fait, on s'autocritiquait beaucoup.
Et c'est là où tu parles d'arrangement, il fallait arranger les dialogues pour que ça ne prenne pas trop la place, chaque
Exactement.
Musique, qu'elle soit arabe, perse, ou médiévale, baroque.
Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a découvert au fur et à mesure, parce que le travail d'arrangement, ça prenait beaucoup de temps. Parfois, on se rendait compte que le temps qu'on se mette d'accord... Et quand on revient en arrière, on écoute la version originale de compo que, par exemple, moi, je jouais, j'envoyais aux deux autres et elles écoutaient. En fait, on faisait des échanges, on travaillait sur l'arrangement. Et une fois qu'on a le morceau final avec l'arrangement, quand on revient et on écoute le morceau original, parfois, on se dit « Ah oui !» Et on voit toute l'évolution. Quand le morceau a touché l'alchimie du trio, en fait, ça a transformé dans le bon sens. C'est-à-dire que l'essence même du morceau est là, mais quand même, il a été enrichi par cette alchimie. Comme si, en fait, il y avait des choses qui étaient là déjà, mais ce n'était pas audible, ce n'était pas visible. Et cet arrangement rend ce travail visible, quoi.
On va réécouter tout ça après la théorie, place à la pratique, avec le titre suivant, Femme qui aide-moi.
Femme qui rougit comme l'univers.
femme qui rougit comme l'univers, l'ensemble Chakram, qui sera en concert le 25 mars à Paris au studio de l'Ermitage et le 20 février au conservatoire d'Ivry. Alors, cette femme qui rougit comme l'univers, on en parlait hors micro, c'est un peu aussi un hommage à la place de la femme dans la musique. Le trio Chakram, c'est 100% féminin. Et...
Exactement, j'ai composé ce morceau une fois qu'on nous a annoncé qu'on était sélectionnés pour le final du prix des musiques d'ici, qui est un dispositif pour mettre en valeur les musiciens et la musique, les musiciens du diaspora, et de les rendre visibles, qui nous a, d'ailleurs je les remercie ici.
On les salue, on en a parlé encore à la dernière émission de Ville des musiques du monde et tout ce qui est fait autour de ce prix.
Exactement, parce que moi je trouve que ça nous a vraiment, vraiment aidé et ça nous a rendu encore plus visible. Et c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour nous en tant que musiciens, musiciennes, d'avoir un tel dispositif qui met en valeur notre travail, qui n'est pas parfois facile de mettre... en visibilité en fait par les professionnels et aussi par le public, donc j'ai composé ce morceau quand j'ai su qu'on va être parmi les finalistes, que finalement on a été lauréate de l'édition de 2023. J'avais une telle joie d'être sélectionnée, j'ai commencé à composer et j'ai donné ce titre parce qu'en fait, quand on dit une femme qui rougit, on pense tout de suite à une femme qui est séduite, qui est brusquée, en fait, dans l'imaginaire collectif, bien évidemment. C'est vrai que je voulais dédier cette composition à toutes les musiciennes, parce que je trouve qu'être musicienne aujourd'hui, c'est un combat de tous les jours. C'est vraiment sur tous les plans. Pour moi, dans l'univers, effectivement, on a énormément d'éléments qui sont rouges, que ce soit les fleurs, que ce soit le feu, que ce soit énormément de représentatifs de cette couleur. Et pour moi, vraiment, c'était une femme qui s'accorde à cette force de l'univers, à cette beauté de l'univers, mais aussi à tout ce qui est l'inconnu et des obstacles, bien évidemment. Mais pour ce morceau, c'est une femme, je le dis toujours en concert, c'est une femme qui est rouge de sève, rouge de... feu et rouge de force. Donc, c'est un hymne
au courage.
Des musiciennes pour leur force et qui n'abandonnent jamais, en fait.
Et plus largement au féminisme, peut-être.
Exactement, aussi. C'est vrai que ça a commencé de là. Je reste fidèle à l'histoire vraie, mais c'est vrai que, c'est une extension. C'est-à-dire que moi, j'ai pensé, parce que ça résonnait à notre histoire à l'époque, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de quoi en parler, en fait, pour toutes les femmes dans le monde entier. Qui se limite pas
à la France ou à l'Iran, avec le voile, parce que là aussi les mouvements de contestation ont pris une grande importance avec les femmes, mais on le voit dans toutes les régressions aux États-Unis et ailleurs, où souvent c'est les femmes qu'on ostracise et qui sont recluses, donc
mes pensées aussi à toutes les femmes afghanes aujourd'hui. On en parle beaucoup moins, mais c'est vrai que elles se
elle se bat pour des choses les plus basiques aujourd'hui, juste pour
vivre. L'éducation.
L'éducation.
L'Internet qui est coupé, alors que c'était la seule fenêtre encore disponible sur le monde.
Exactement. Et c'est juste... ça fait tellement mal au cœur de voir, mais elles sont tellement courageuses, elles ne lâchent pas. Et voilà, j'avais envie de les citer, en tout cas de dire que voilà, on pense à elles.
Pour revenir à la musique de l'ensemble Chakam, comment est-ce que tu vois, alors on parlait justement de cette rencontre, cette fusion entre le makam des musiques arabes, les radifs de la musique perse. Est-ce que toi, tu te situes en... Tu parlais du prix des villes, des musiques d'ici. Comment tu te caractérises en musique du monde, world music, musique traditionnelle ou musique classique? Quelle serait ta définition dans idéal?
Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur cette question-là, parce qu'à un moment donné, je me souviens à une époque, j'étais un peu plus jeune et des fois, je trouvais ça frustrant de catégoriser, de dire musique du monde ou dire... voilà, je trouvais ça, c'est une explication assez rapide et
réductrice.
Musique traditionnelle, pareil, parce que c'est pas vraiment traditionnel. Musique savante, ok, bah c'est un peu... Bon bref, je passais par tous mes états, mais à un moment donné aussi, je me suis dit, je comprends parce que pour le public qui veulent accéder à un tel ou tel concert, ils doivent avoir une catégorie pour pouvoir s'identifier là-dedans. C'est-à-dire, une grille de lecture, exactement ça. Et aujourd'hui, je l'accepte en fait, cette catégorisation, parce que je trouve qu'à un moment donné, bon, on ne va pas rentrer dans les polémiques, mais je vois aussi beaucoup de nominations de musique du monde, alors que ce n'est pas vraiment musique du monde. Alors ça, c'est un autre problème. Donc, ça manque peut-être un peu plus de précision. Mais en même temps, si je parle, si j'interprète en solo, bah oui, j'aimerais bien qu'on me catégorise comme... ce que je fais, pas moi, la musique classique iranienne, parce que c'est ce que je fais, c'est la musique classique, ce que je fais comme répertoire. Alors, pour le projet Chakam, ce que j'adore, c'est que c'est pas vraiment facile à catégoriser. Et quand on me dit ça, et c'est pas moi qui le dis, parce que je parle avec beaucoup de professionnels ou musiciens qui me disent, en fait, on ne peut pas vous catégoriser. Et pour moi, c'était un grand compliment qu'on recevait. Et je dis, voilà, c'est ce qu'on voulait.
On a réussi notre cool hold-up.
Et la preuve, c'est qu'on a été invité dans des festivals avec une large...
palette.
Oui, palette. On a été dans un festival de musique contemporain. Superspective à Lyon, qui n'existe plus maintenant, ça a changé. On a été dans des festivals de musique de jazz, musique du monde, musique classique. Donc, aussi ça montre aussi que...
Une ouverture et qu'on peut jouer sur plusieurs tableaux.
Oui, sauf que par exemple, tu vois, on n'a jamais... Moi, j'ai jamais prétendu qu'en fait, avec l'ensemble de Chakam, on fait du jazz. Mais c'est vrai qu'on a eu des retours du public. Ah non, mais tel motif ou tel motif, tel rythme, ça me fait penser au jazz.
À du jazz.
Et moi, j'ai dit, ah oui, d'accord. Et c'est vrai que quand je réfléchis, je parle de moi personnellement, on a été inspiré aussi des musiques qu'on a côtoyées pendant tout ce temps-là. J'écoutais pas mal de musique jazz, mais sans vouloir imiter, mais il y a quelque chose qui est là.
Qui infuse et qui...
Exactement. Exactement.
Et au niveau du public, alors là aussi, est-ce qu'on a tendance à associer le public des musiques du monde ou classique à des publics plus âgés? Est-ce que tu arrives à avoir de la jeunesse qui peut s'intéresser à ces musiques ? Comment tu définis le public
que tu croises ? C'est vrai que la tranche d'âge qu'on voit en fait, dans nos concerts, c'est vraiment... voilà, on voit pas un grand nombre de jeunesse. Et ça me sidère un peu. Je me dis, pourquoi ? Ça me fait penser parce que on a joué à So Far Sounds il y a un an, je pense, à la Rotonde à Paris. Et là, je ne sais pas si le concept est connu pour tout le monde, mais c'est-à-dire que le public s'inscrit à un concert, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont voir. Donc, il découvre sur place. Donc c'était le cas parce qu'il y avait nous, il y avait deux autres groupes qui jouaient dans la même soirée, et là on avait un public très jeune, une centaine, et il y avait des groupes qui jouaient avant nous. Le concert a été terminé par Ensemble Chacom, et il y avait un groupe folk britannique, et l'autre groupe, je me souviens pas, c'était assez pop en gros. Et ça a terminé par Ensemble Chacun. Déjà, je vous dis, c'était une claque pour ce public dès qu'on est arrivé. Mais j'oublierai jamais l'enthousiasme et, de ce public et comment ils ont accueilli notre musique. Ça leur a plu, ça leur a parlé. Et là, je me suis dit, voilà, toutes les fausses idées qu'on a, que parce qu'on fait la musique acoustique, parce qu'on fait la musique... qui vient, enfin voilà, des mondes inconnus peut-être pour la jeunesse, ils vont pas s'intéresser, mais c'est complètement faux. C'est juste qu'on n'a pas assez dans les médias, qu'on n'a pas assez en fait, qu'il y a pas de prise de risque de la part de peut-être
programmateurs.
Voilà. Mais sinon, moi ça m'a tellement touchée, et j'ai gardé un super souvenir de ce concert et de cet engouement de la jeunesse en fait qui était là, qui ont adoré notre musique. Mais je pense qu'il y a quand même un vrai travail de sensibilisation auprès des jeunes qui doivent se faire, et que je suis sûre que ça va marcher.
Et que ça peut passer par le live aussi, parce que ça rend très vivant ces musiques, alors qu'effectivement à écouter dans un salon, enfin, on va, il y a cette chose de zapper un peu instantané chez les jeunes, alors qu'en live, on a l'attention, on a l'écoute, et que ça peut être
tout à fait d'accord,
un médium pour découvrir ces musiques-là. On va faire une petite parenthèse par rapport à la Soundcheckam en écoutant un titre issu de l'ensemble Atin, qui avait trois des membres de... Enfin, l'ensemble Chacam qui se retrouvait dans cet ensemble Atin. Donc, il y avait Marie-Suzanne Deloy aussi, qui était
Deloy
avec toi. Deloy, pardon. Oh là là. Et donc, on va écouter tout de suite le titre Yari de l'ensemble Atin.
Jonam vasa sudan, zor man bezan gir zulfat girifto
ensemble Atin avec ce titre Yari. On peut reparler un peu de l'Iran maintenant, Sogol. Mmh. On connaît pas mal en France le travail des réalisateurs Jafar Panahi, Asghar Farhadi. En musique, les Hostad, qui signifie maître, Mohamed Chajarian, Hossein Alizadeh, ou Keyan Kellor. Comment ça se passe maintenant, aujourd'hui, en Iran ? Est-ce que la résistance arrive encore à être à l'intérieur, ou est-ce que ça passe par ces voies de l'exil ? Quelle est la situation aujourd'hui ?
Juste avant que je réponde à ta question, puisque tu as parlé des maîtres de la musique,
ouais.
Je voulais parler de Jamshid Chemirani qui nous a quitté il y a quelques jours. Toutes nos pensées à lui et aussi à Kayvon et Bijan et Mariam Chemirani. Donc c'était un grand maître de percussion qui a transmis bien évidemment tout à Kayvon et à Bijan, et aussi qui a eu un rôle très très important dans la musique iranienne. Donc il va nous manquer. Je voulais parler de lui et de dire qu'on pense à lui.
Très très bien. C'est vrai qu'il nous a quittés récemment et qu'il a donné une fougue à ses enfants musicales et aussi de la musique iranienne en France. Parce que c'est des artistes qu'on retrouve souvent et dans des tellement nombreux projets un bel hommage que de parler de lui.
Et pour répondre à ta question, je pense que la résistance continue à l'intérieur d'Iran et aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est deux formes de résistance différentes. Je vois qu'il y a énormément de musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses qui organisent des concerts, comme on appelle en Iran, souterrains. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, parce qu'en Iran, bien évidemment, pour donner des concerts, il faut 10 milliards d'autorisations, il faut aller voir tel organisme ou tel organisme, de donner le programme complet de concert avec les paroles pour que ça soit validé par tel comité ou tel comité. Donc voilà, c'est que aujourd'hui les musiciens, ils ont vraiment le recours en fait de se rassembler dans des petits lieux privés et de faire passer en fait l'annonce dans un réseau qui ont confiance, bien évidemment, parce que effectivement il y a quelques mois il y a eu des fuites d'infos et qu'en plein milieu de concert, ils sont arrivés, ils ont arrêté des musiciens et aussi la chanteuse qui était en train de chanter avec le groupe. Et la résistance, continue à travers vraiment chaque geste. C'est dans la vie quotidienne. Ça peut être aussi d'aller donner, parce que bien évidemment, les musiciennes donnent des cours, d'aller en fait à leur école de musique et de ne pas mettre le voile ou de même s'exprimer via les réseaux sociaux. Et là, ça, c'est un phénomène aussi hallucinant qui montre à quel point ils ont peur. C'est de fermer la page Instagram des chanteuses ou des musiciennes qui sont beaucoup de followers. Alors qu'ils font rien, en fait. Ils sont dans leur chambre, ils sont en train d'enregistrer leur voix, de le diffuser. Et voilà, ça, c'est leur page. enfin, voilà, ils ferment. Mais connaissant, voilà, c'est le contexte et aussi le courage de toutes ces femmes, elles vont toujours trouver un moyen de s'exprimer, de continuer à résister. Et bien évidemment, en ce qui concerne des artistes qui sont en dehors d'Iran, il n'y a pas de contraintes pour pouvoir s'exprimer, ils le font facilement en tout cas, mais leur rôle aussi c'est de toujours relayer la voix des chanteuses ou des femmes qui sont à l'intérieur d'Iran et pour que ça continue à être entendu et audible aux oreilles des personnes qui parfois malheureusement ça arrive, hein, c'est qu'il y en a encore qui ne connaissent pas la cause en fait des problèmes qui sont arrivés en Iran, cette révolution, donc voilà, si ça peut donner encore en plus d'informations, je pense que la résistance pour eux, en fait, ceux qui sont actifs dans leur rôle artiste engagé, c'est de relayer toujours la voix des artistes à l'intérieur.
Ben, on va poursuivre à relayer la voix de l'ensemble Chakam en France, qu'on peut retrouver le 25 mars au studio de l'Ermitage et le 20 février au Conservatoire d'Ivry. On poursuit avec l'écoute du titre Didar. Thank you. Ensemble Chakam, on a rappelé Sogol alors que tu me disais hors antenne avoir un concert en solo, là cette fois-ci un concert autour du tar qui aura lieu à la bibliothèque Robert Sabatier à Paris dans le 18e, le 29 novembre. Donc c'est des concerts un peu pédagogiques où tu parles de l'instrument.
C'est ça exactement, parce que je trouve que c'est quand même... J'en ai fait des concerts... avec ce concept-là, un peu en Île-de-France, pas à Paris même. Et c'est vrai que ça peut être assez enrichissant, dans le sens que, bien évidemment, comme un format de concert, je joue en solo, il y aura vraiment un vrai temps de musique. Et ensuite, je fais une intervention, une présentation un peu plus approfondie de ce qu'on vient de dire ensemble, là. Je présente l'instrument et un petit peu la musique iranienne, et aussi il y a beaucoup de un débat, des questions de réponses, c'est-à-dire que là je laisse vraiment la parole au public de poser leurs questions. Il y en a qui ont déjà vu l'instrument, il y en a qui viennent découvrir, et du coup ça crée quand même une ambiance aussi pédagogique, comme tu l'as dit. Donc voilà.
On poursuit avec donc l'ensemble Chakam. Quelles sont et tes autres actualités? Là, on le rappelait, ce concert. Il y a les deux autres concerts du 25 mars au studio de l'Ermitage et le 20 février au Conservatoire d'Ivry de l'ensemble Chakam. Et quelles sont alors tes actus et tes projets à venir? Il y a beaucoup de dates à l'étranger, je voyais.
Ouais, c'est ça, c'est les retombées de vos mecs. Hein.
Oui, on salue Ourida, ta tourneuse qui s'occupe des concerts.
Oui.
Et il y avait eu donc le WOMEX, le World Music Expo, à Manchester, où vous aviez joué. Et donc, il y a eu pas mal de retombées de ces concerts plutôt à l'étranger.
Bien sûr, c'est ça, exactement. C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure du prix des musiques d'ici, et que quand on parlait avec le prix, ce qu'on disait, que ça donne une visibilité très appuyée en fait au réseau en France. Mais en même temps, j'avais cette envie qu'on tourne aussi à l'international. Et la même année, quand on a été lauréate, j'ai voulu qu'on postule pour WOMEX. Et c'était une grande honneur, parce qu'on a été sélectionné tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la première fois qu'on postulait, on a été sélectionné. C'était à Manchester. Voilà. Tout le processus qu'il fallait faire pour le visa aussi, je te raconte pas, on passe ça. Et c'était vraiment, il y a un beau showcase, il y a eu des retombées
À l'international, on a été à Naples il y a quelques semaines au Super Festival d'Ethnos. On va jouer à Budapest le 23, House of Music, qui est une super jolie salle. On va avoir une tournée en Suède pendant 2 semaines au mois d'avril.
Ah, c'est énorme, hein. Moi, j'ai rarement vu des groupes se produisant au MEX avec un tel...
C'est sûr. Et là, la semaine prochaine, oui, j'ai oublié ça, c'est aussi à retomber de vos mecs, à Zurich, la semaine prochaine, le 14 novembre. Cité de la musique est à Marseille. Bien évidemment, toutes les dates sont annoncées sur le site de Tourne & Soul Prod, qui sont en fait notre tourneur. J'ai hâte pour toutes ces dates et aussi de faire connaître ce projet. Et je suis aussi, nous sommes honorés que ça a pu parler sur le plan international aux organisateurs. Et ça fait vraiment plaisir.
Chaud au cœur.
Ouais.
Et du coup, les actus alors, se concentrent sur cette tournée-là.
Oui.
Pas de nouveaux projets à déclarer.
Pour l'instant, bien évidemment, parce que l'album est sorti récemment, c'était vraiment... on a eu pas mal d'actu hein, ces derniers temps. C'était le prix, après Vomex, après c'était la sortie d'album. Pour l'instant, on essaye de se concentrer vraiment sur les tournées, sur les dates à venir. Et bien évidemment, l'actu, ça reste aussi... bien évidemment, dans les concerts, on entend les compos qui sont dans l'album. Mais on a aussi apporté des nouveaux morceaux. Un morceau de Farah Fersi, la musicienne de Kanoun qui est tunisienne. Elle a apporté un morceau. Il y a Marie-Suzanne aussi, ça c'est pour le coup.
Ah, grande première.
Oui, grande première. Elle compose maintenant, elle amène ses compositions. On joue sa composition aussi. Et moi aussi, voilà, c'est... On essaye d'amener des nouveaux...
Le dialogue reste présent aussi en live avec des nouveaux titres.
Exactement, avec des nouveaux titres. Et je trouve ça aussi important pour le dynamique aussi de live, de toujours présenter un nouveau morceau qui n'est pas forcément dans l'album. Mais c'est sûr que... il y a de l'élan pour d'ici, en fait, 2027, bien évidemment, de penser d'avoir plus d'actu, mais pour l'instant c'est vrai que les dates sont prioritaires.
Et merci beaucoup pour tout ça. Ouais, on rappelle Les Vents Brûlants, sortis au printemps 2025. C'est beau concert, donc le concert autour du Tard de toi en solo à la bibliothèque Robert Sabatier le 29 novembre, c'est dans le 18e à Paris. Le 20 février au Conservatoire d'Ivry. Le 25 mars au Studio de l'Ermitage à Paris. Voici pour les dates Île-de-France.
Ouais.
Et puis si vous êtes sur la route, allez voir Tournesol Productions. C'est là où on voit toutes vos dates à l'étranger.
J'ai juste oublié de dire une chose. C'est le moment. C'est maintenant ou jamais.
C'est maintenant. C'est ton dernier mot. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ?
Oui, c'est... Je voulais dire aussi que je c'est pas à Paris, mais je le dis peut-être que au passage, comme tu disais. Je vais jouer en duo avec la chanteuse magnifique Lynn Adib.
J'adore.
Oui. On a eu l'occasion de jouer ensemble pour la solstice d'hiver au consulat de Paris. C'était le 23 décembre, un truc comme ça. Donc, c'était une collaboration improvisée. Et là, on va jouer le 18 décembre à Lille, suite à l'initiative et l'invitation de Data Kafa pour l'ouverture de la salle. J'espère que je ne me plante pas du nom. La Rose des Vents, je pense, pour leur réouverture, parce que ça a été fermé pendant longtemps pour les travaux, et là, ils vont réouvrir. Avec Lynn, on va avoir un concert intimiste en duo. Je voulais l'annoncer parce que Je pense que ça va être un moment exceptionnel et inoubliable si jamais vous êtes à Lille.
Une très belle voix, on adore Lille, ouais. On l'avait reçue avec Bud Vamberger dans l'émission. Donc ça fait très très plaisir de savoir qu'il y a une rencontre au sommet entre vous deux.
Ouais.
On a beaucoup de chance d'être lillois et on aimerait beaucoup que ça vienne à Paris.
À Paris.
Cette belle rencontre.
J'espère aussi.
On espère que ça fera des petits.
Oui.
En tout cas, grand merci Sogol d'avoir été notre invité.
Merci.
On va se quitter avec un chameau ivre pour finir. Encore un titre original, surprenant, ouais. Mais qui fait plaisir. Merci Sogol.
Merci pour cette invitation. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Se quitter avec un dernier titre de Bachar Makhalife, le titre Biladi, extrait du spectacle Terre. Ce spectacle Terre est une pièce de théâtre écrite par Tamara Al-Saadi qui revisite la version du mythe d'Antigone. Et c'est Bachar Makhalife qui a composé la musique poétique et vibrante de cette pièce de théâtre. On écoute tout de suite.
Mélodie, mélodie.